Chapitre 8. 6 semaines se sont écoulées. Le mois d'août touche à sa fin. Déjà les feuilles des ronces rougissent, déjà les hêtres se teintent de bronze dans ces gorges où l'automne est précoce. Manuel est assis sur la berge, les pieds presque dans la rivière, pêchant des truites pour le vivier de la mère Salomé. Il en a déjà 2 dans un baquet rempli d'eau, placé tout près de lui, à l'ombre d'un sureau. Mais ce succès est dû à l'étourderie des truites plutôt qu'à l'habileté de Manuel, car il n'a aucune des qualités nécessaires au vrai pêcheur à la ligne. Il est impatient, il a dans le poignet des mouvements nerveux qui secouent la mouche au lieu de la laisser flotter doucement à la surface de l'eau. Finalement, il se lève et se promène en songeant. En 2 mois, quel changement profond s'était opéré dans sa vie! Il avait commencé par jeter aux orties la lime et le microscope, il avait recouvré sa liberté, puis il avait donné à Jonquille comme un dépôt précieux qu'elle devait garder pour lui. 2 mois auparavant, il n'était rien, tout au plus un numéro dans les registres d'une fabrique. Aujourd'hui, il avait un métier de son choix, une maison, une jeune femme et un frère. Il était marié depuis 3 jours. La noce s'était faite sans bruit, à la demande expresse de Jonquille. Le pasteur processant d'abord, puis le curé qui se souvenait encore d'avoir baptisé la fiancée, bénirent leur mariage. Ainsi, Jonquille devint devant la loi Barnabé Vincent et amena son jeune mari dans la maison de sa mère. Toute la semaine précédente, Manuel avait emménagé les vieux meubles qui lui venaient de son père. Comme il avait en poche ses gains de 3 semaines, il fit un certain nombre d'achats que la mère Salomé accueillit avec beaucoup de faveur. Elle était contente de son gendre qui n'était pas regardant. Il n'avait pas même dit un mot du trousseau de Jonquille. Il faisait faire une belle armoire pour le linge de la maison et il n'avait pas de bourse particulière. Avec cela, beau, robuste, un peu brusque et jaloux, mais pour le bon motif. C'était le gendre qu'elle rêvait. Il y avait bien un revers à la médaille. Les gars s'étaient dispersés depuis le jour des fiançailles, ne voulant pas exhiber leur désappointement. Sans doute, ils reviendraient peu à peu, comme les chats qui ne sauraient abandonner leur vieille demeure, même après un incendie. Cependant, le trafic languissait, les gains de l'aubergiste étaient à marée basse. On n'entendait plus dans la maison ce va-et-vient bruyant auquel on était accoutumé. Pierre seul jouissait de ce silence qui pesait à sa mère et même à Jonquille. Toutefois, la jeune fille, très affairée par ses grands préparatifs, n'avait pas, durant la journée, le temps de se sentir aucun vide ni le moindre ennui. Elle courait sans cesse, mettant tout en ordre, balayant, frottant, époussetant les vieux planchers et les vieilles armoires qui n'avaient pas été souvent à pareille fête. L'après-midi, elle venait s'asseoir auprès de Pierre et faisait courir son aiguille. Il fallait coudre le petit trousseau bien modeste que sa mère lui donnait, et quoique les ourlets ne fussent pas son affaire, elle y travaillait néanmoins de tout son cœur, faisant de grands points dans son impatience d'avoir fini, et les défaisant ensuite pour s'en punir. Le soir, Manuel arrivait pour souper en famille. Il montait ensuite chez Pierre avant de se mettre en campagne. Comme il n'était pas grand causeur, la conversation languissait parfois. Quant à lui, s'il pouvait regarder Jonquille et lui tenir la main, il était satisfait. Mais la jeune fille, qui n'avait rien de très contemplatif dans le caractère, eût préféré un amoureux moins laconique. Elle essayait de lui faire raconter sa vie passée, ses souvenirs d'enfance, elle brûlait de connaître tout ce qui le concernait. Malheureusement, il n'avait pas le tour d'esprit descriptif, ni ce plaisir à parler de soi qui fait les vrais conteurs. Il ne ressemblait en rien à Firmin Mitou, qui avait eu à lui seul plus d'aventures dramatiques que 50 contrebandiers ordinaires. Les soirées s'écoulaient donc assez monotones. Jonquille, bien qu'heureuse de se sentir aimée, soupirait involontairement après l'animation d'autrefois, le bruit, les voix joyeuses, l'excitation du départ, et aussi, faut-il le dire, après ces applaudissements qui la soulevaient au-dessus d'elle-même. Il lui tardait d'être marié. le temps des fiançailles, ces semaines poétiques pleines de rêveries, de confidences, de promenades à deux et d'illusions légères que le premier souffle emportera, ce moment de transition entre le passé de la jeune fille et l'avenir de la femme, cette période où rien ne se fait, où tout se prépare, pesait à son esprit actif. Elle avait hâte de voir leur vie à deux définitivement fixée. Alors, le torrent ordinaire, pensait-elle, recommencerait à couler. Les gars reviendraient, Manuel organiserait la bande, on entendrait de nouveau des chants et des rires, et l'on se reprendrait à vivre dans la vieille maison. Ses vœux ne tardèrent pas à s'accomplir. Manuel, plus impatient encore que sa fiancée, avait su abréger tous les préliminaires. Ils étaient mariés. Manuel rêvait à cette histoire qu'il trouvait merveilleuse. « Il arrive si rarement, pensait-il, qu'un homme rencontre la femme qu'il lui faut, et moi, d'un coup, je l'ai trouvée. En même temps, je suis entré dans le genre de vie pour lequel j'étais fait, mais que j'aurais pu chercher en tâtonnant jusqu'à ma vieillesse blanche, sans ce gredin de Constant Loison. » Il se sentait des tendresses pour Constant Loison, tout en l'appelant gredin. Il aurait voulu, pour satisfaire à la fois sa rancune et sa reconnaissance, le prendre au collet, le jeter dans la rivière, et puis le repêcher avec enthousiasme et lui donner ses propres habits pour le sécher. Tandis qu'il riait tout seul à cette idée, il entendit un pas furtif derrière lui, et, sans qu'il eût le temps de se retourner, deux mains se posèrent sur ses yeux, tandis qu'une voix murmurait à son oreille « Devine qui je suis !»« Ma belle-mère » répliqua-t-il en riant. Les deux petites mains se délièrent, mais, en glissant sur les oreilles de Manuel, ne résistèrent pas au plaisir de les tirer un peu pour punir l'impertinent. Jonquille s'assit à côté de son mari. Ses petits pieds, chaussés de bas bleus et de pantoufles, s'étendirent avec volupté sous les hautes herbes grillées par le soleil, puis elle se renversa nonchalamment, se faisant un oreiller de l'épaule de Manuel. « Ah, connais bien comme cela » fit-elle. Peu à peu, elle laissa glisser sa jolie tête brune jusqu'à toucher la joue de son mari, mais tout à coup, le repoussant des deux mains, « Le bout de ta moustache m'est entré dans l'œil » s'écria-t-elle. « Qui s'y frotte, s'y pique !» dit Manuel en tordant sa moustache avec une évidente satisfaction. « Je ne m'y frotterai plus, va !» s'écria Jonquille en lui tournant le dos. Il aimait ses manières d'enfant gâté, ses colères d'oiseau-mouche qui faisaient paraître Jonquille plus jeune encore qu'elle n'était. Après une minute de bouderie feinte, elle tourna la tête et vit la ligne gisant dans l'herbe. « As-tu fait bonne pêche ? Nous aurons du monde à souper » dit-elle, lui tirant les deux bouts de sa cravate pour en refaire le nœud. « Ah, qui ça ? » fit Manuel sans le moindre empressement. « Firmin, Mitou et Arsène, ils sont arrivés tout à l'heure, je venais te le dire. Tu es content, n'est-ce pas ?»« Hum, coussi coussa, drôle de lubie tout de même de venir nous déranger aujourd'hui. Nous sommes censés en voyage de noces, Jonquille. »« Là, fit-elle triomphante, si tu pouvais voir ta cravate, elle a un tout autre air à présent. Sais-tu ?» ajouta-t-elle en penchant la tête dans une attitude contemplative. « Sais-tu que je te trouve assez beau garçon pour un mari ? Et moi, je te trouve gentille quand tu n'invites personne à souper. »« Invité ? À quoi penses-tu, Manuel ? Nos gars sont venus comme à la maison, ainsi qu'ils faisaient en l'ancien temps, le bon temps, » murmura-t-elle presque involontairement. Son mari la regarda en fronçant le sourcil. « Je croyais, dit-il, qu'on avait passé l'éponge sur le vieux temps. Tu es une femme mariée aujourd'hui, Jonquille. » Elle se mit à rire. « C'est vrai, dit-elle, mais ça n'en est pas moins drôle. Je ne me sens pas un brin plus raisonnable qu'il y a 3 jours. Je croyais, moi, que la bénédiction de monsieur le curé était faite pour ça et qu'en sortant de l'église, on verrait tout en gris comme les gens sensés. » « Mais c'est une petite folle que tu as prise. Manuel, pauvre Manuel !» Elle lui jeta les deux bras autour du cou. Elle n'était pas prodigue à l'ordinaire de ses façons câlines, mais il fallait dissiper au plus vite le nuage qui couvrait le front de son mari. Et tu feras bon accueil à nos gars, n'est-ce pas ? Murmura-t-elle. Tu es le maître de la maison à présent, ne l'oublie pas.
Si j'étais le maître de la maison, répondit-il durement, je la fermerais.
Elle se jeta en arrière, blessée de ce ton auquel elle n'était pas accoutumée.
J'espérais, reprit-il doucement, que nous allions vivre sur un autre pied, moins d'allants et de venants, de vacarmes, de conversations mal faites pour les oreilles d'une jeune femme. Ta mère n'y aurait rien perdu. Les promeneurs auraient pris l'habitude de s'arrêter chez nous. Moi, j'aurais suffi au reste.
Et tu m'aurais sans doute enfermé dans ma chambre toute la sainte journée, méchant jaloux !
S'écria-t-elle, car elle n'était pas sans deviner la cause secrète du mécontentement de Manuel.
Eh bien, oui, répondit-il d'un air sombre, je suis jaloux. Mais pas comme tu l'entends. Je te voudrais plus timide. Tu n'as peur de rien ni de personne. Ce sont eux, ces gars que tu appelais tes frères dans un discours d'illustre mémoire. Il ne put s'empêcher de sourire. Ce sont eux qui t'ont donné ces façons cavalières, ce goût du tapage.
Elle se leva très offensée.
Je suis jonquille, dit-elle. Si vous m'avez prise pour une fille bien élevée, vous vous êtes trompée, Manuel. Il fallait chercher ailleurs.
Elle fit un pas pour gravir la berge, mais il s'élança près d'elle et la retint.
« Ne t'en va pas, dit-il impérieusement. Tiens, mettons que je n'ai rien dit. Fais-tu la paix ?»
Cette façon de l'offrir n'avait rien de soumis. Manuel tenait les deux mains de jonquille prisonnières dans les siennes et il les serrait très fort.
« Jamais ainsi !» s'écria-t-elle indignée. « Crois-tu que je vais céder parce que tu me fais mal ?»
Mais déjà l'irritation de Manuel tombait.
Ah, ma petite jonquille, ma petite reine, murmura-t-il, aime-moi seulement et fais ce que tu voudras.
Firmin Mitou revenait d'un voyage d'agrément. Il était allé voir en Beaujolais la famille de sa mère qui avait multiplié et prospéré au point d'avoir des rejetons dans tous les coins de la province. Si bien que, de cousin en cousine, Firmin Mitou avait prolongé pendant 4 semaines son séjour dans cet heureux pays qu'il décrivait en traits hyperboliques. Tous ses cousins étaient de gros fermiers, de gros vignerons. L'un même, cousin par alliance, à la vérité, était notaire. Tous avaient des sacs d'écus, la poule au pot chaque dimanche et des filles adorables. Firmin Mitou ne tarissait pas au sujet de ses cousines, remuées de Germaine. Mais il ne réussit pas à piquer Jonquille, qui riait de bon cœur de ses exagérations. Le souper fut très gai. Firmin, très en verve, ne déparlait pas. Manuel remplissait ses devoirs d'hôte avec une cordialité suffisante. Jonquille sentait la vie rentrer au logis.
« Nous allons nous réorganiser, disait Firmin. Tant que la maison était un colombier et que les tourtereaux roucoulaient par trop tendrement, les oiseaux de nuit se tenaient à l'écart. Mais ils vont revenir. En passant, j'ai fait signe à celui-ci qui ne demandait pas mieux que de recommencer nos parties. »
Arsène Leroux inclina la tête.
« On n'a pas gagné gros tous ces temps, marmotta-t-il. Les mioches crient famine et ma mère gronde. »
« Tu vois, dit vivement Jonquille en se tournant vers son mari, que sans nous ils ne peuvent rien faire. Ils sont accoutumés à se réunir ici. »
« Pour moi, reprit Firmin, je suis décidé à me ranger. Mon cousin le notaire m'a fait comprendre qu'un homme sans économie n'est que la moitié d'un homme. Au lieu de tout légumer comme un prodigue et de jeter mes écus dans l'eau pour faire des ronds, je vais prendre un livret de caisse d'épargne. Et quand j'aurai des fonds, en route pour le Beaujolais. Des vignes partout, des gens aimables et des dindes toutes truffées qui courent les chemins. »
Arsène Leroux partit d'un éclat de rire. C'était un grand succès, car il se déridait rarement.
« Malgré ça, dit-il avec lenteur, je suppose que les pierres sont dures là-bas, comme ici. »
Il n'en fallait pas davantage pour lancer Firmin à fond de train. Il se mit à prouver comme quoi les pierres, non seulement étaient moins dures en Beaujolais qu'ailleurs, mais n'y existaient absolument pas, que tout y était terre végétale, terre brune comme du chocolat, grasse et tendre comme du beurre, terre plus légère pour la vigne, remplis d'esprits capiteux et gais comme des feux follets, qui montent dans le vin et, de là, dans l'esprit des gens, et qui font des heureux habitants du Beaujolais la race la plus folichonne de la terre. » Jonquille s'amusait. Elle donnait la réplique à Firmin, taquinait son mari. Jamais la jolie fossette qui se creusait au coin de sa bouche quand elle riait ne s'était montrée si souvent. Lorsque les trois hommes furent prêts à partir, elle jeta à Manuel un regard suppliant. « Me permets-tu de vous chanter un petit bout de chanson ?»« Tout ce que tu voudras, ma mignonne, » répondit-il avec une tendresse un peu triste. Elle chanta donc. Jamais sa voix métallique n'avait vibré plus claire, plus triomphante. Elle jubilait comme une alouette sortant de cage, elle éclatait en fusée. Manuel se sentait frémir, la musique remuait en lui un monde à moitié endormi de sensations confuses, de vagues souvenirs. Il avait des impulsions nouvelles, puis des craintes, des pressentiments qui passaient comme des ombres. Chanterait-elle ainsi pour moi tout seul ? Instinctivement, il étudiait la physionomie de ses deux compagnons, interprétant à sa manière les impressions diverses qui s'y reflétaient. Trop ou trop peu d'admiration l'eût également offensé. « Jonquille, dit-il doucement en s'approchant d'elle au moment du départ, pourquoi ne chantes-tu pas chaque soir pour Pierre et pour moi ?»« C'est vrai, je n'y avais jamais pensé, dit-elle. » Pauvre petite, son talent avait été pour elle un gagne-pain quelquefois et plus souvent une coupe d'ivresse et d'oubli au soir des journées monotones. Elle n'avait pas appris à en faire le charme de son foyer. Avait-elle eu un foyer seulement jusqu'ici ? Manuel, qui était en veine d'indulgence, lui permit de les accompagner à l'autre bord. Mais il ne souffrit pas qu'elle ramât. Il prit les avirons et la garda tout près de lui sous son égide. Au moment de la quitter, il laissa ses compagnons prendre les devants. « Retourne-t'en tout droit, » dit-il à Jonquille en l'embrassant. « Je n'aime pas te sentir seul au bord de l'eau et si tard. C'est déjà un tourment pour moi de vous laisser sans défense dans cette vieille maison où tous les malheurs pourraient vous tomber dessus sans qu'on n'en sache rien. »« Nous avons toujours été gardés, » répondit Jonquille doucement. « Je suppose qu'il y a là-haut quelqu'un qui s'occupe de nous, à cause de Pierre sans doute, car moi, j'oublie souvent de dire mes prières, et d'ailleurs je n'y comprends goutte. » Son mari s'éloigna. Elle s'assit au bout de la barque et prit les rames pour lui obéir. Mais la nuit était belle, tiède et parfaitement sereine. Jonquille voulut en jouir un peu plus longtemps. L'hiver viendrait si vite, pendant lequel il faudrait s'enfermer entre des murs moroses. La jeune femme s'étendit sur le banc, dans sa posture favorite, la tête appuyée sur l'une de ses mains et l'autre trempant dans l'eau. Elle chercha des yeux ces deux étoiles et les trouva qui se baignaient ensemble au fond de la petite anse claire et noire comme du jais. Le soir, où la première fois, elle avait donné à l'une le nom de Manuel, lui semblait bien éloigné maintenant. Comment tant de choses étonnantes avaient-elles pu se passer en si peu de semaines ? Jonquille avait rêvé souvent à la façon dont l'amour entrerait dans sa vie, et voici qu'il y avait pénétré par une porte toute banale, un beau jour, en plein midi, sans effraction. Il n'y avait rien de merveilleux ni de tragique dans cette histoire d'amour, si ce n'est qu'un soir, l'amoureux avait enlevé sa belle dans ses bras et s'était enfui comme un voleur avec son trésor. Encore, au lieu de l'emporter jusqu'au bout du monde, s'était-il contenté de monter au premier étage. Cependant, Jonquille avait beau sourire avec un peu de dédain, une chaleur très douce lui montait au cœur. Elle se sentait serrée encore dans ses bras qui la pressaient avec une ardeur violente, contre cette poitrine dont elle avait entendu les battements passionnés. Elle n'aimait jamais tant Manuel que lorsqu'elle songeait à cette minute-là. « Ainsi, je l'aime donc, » répétait-elle toute rêveuse. « Je croyais que l'amour serait autre chose. Il n'a pas tout changé dans ma vie comme je m'y attendais. J'aime encore Pierre et ma mère aussi de la même façon. Je m'ennuie par moments, tout comme autrefois, même plus qu'autrefois. » Je ne pense point constamment à Manuel. S'il n'était jamais venu, Peut-être que ma vie n'aurait pas été beaucoup plus malheureuse. Mais il est là, il m'aime et il est bon, il ne permettra jamais qu'on touche à un des cheveux de ma tête. Nous autres femmes, même les plus courageuses, nous avons besoin qu'on nous protège. » L'heure s'écoulait. Les étoiles et le temps que rien n'arrête s'avançaient ensemble sur leur route silencieuse. Jonquille, enfin, sortit de sa rêverie et prit les rames en tressaillant. « Quand il saura que je lui ai désobéi, il me grondera, pensa-t-elle, mais je le lui dirai tout de même. » Le lendemain, en effet, elle se confessa pendant le déjeuner. « Je crois, dit-elle, qu'on m'a changée en nourrice avec une bohémienne. Je ne déteste rien autant qu'un toit sur ma tête quand la nuit est belle. Il faudra que nous fassions notre tour de noces à pied, Manuel, et que nous dormions toutes les nuits à la belle étoile. Les petits oiseaux viendront nous couvrir de feuilles, comme dans le conte, pour nous empêcher d'avoir froid. » Manuel ne répondit rien. Il était fatigué car il avait marché presque toute la nuit pour être de retour au matin. Il monta dans sa chambre et dormit jusqu'à l'heure du dîner, tandis que Jonquille et sa mère vaquaient aux soins du ménage. Dans l'après-midi, Manuel entra chez Pierre pour lui proposer une promenade, mais le jeune garçon était trop souffrant pour sortir ce jour-là. Après être resté quelques minutes assis auprès de lui, Manuel se leva brusquement. « Il faut que je trouve quelque chose à faire, dit-il. J'ai honte de me croiser les bras pendant que Jonquille travaille. » Il descendit au jardin où la jeune femme échenillait des choux. « Donne-moi de l'ouvrage, Jonquille. Tu peux m'aider si tu veux. » Il se pencha à côté d'elle et, pendant un quart d'heure, jeta consciencieusement les pauvres chenilles vertes dans un baquet plein d'eau. Mais cette besogne l'écœurait. « N'y a-t-il rien d'autre à faire à la maison ? » demanda-t-il en se redressant enfin. « Rien aujourd'hui. La semaine prochaine, il faudra couper et remiser la provision de bois pour l'hiver. Ne pourrais-tu laisser en paix ces choux, ma femme ? Pour que nos choux ressemblent à des balais dans 15 jours d'ici, qu'est-ce que deviendrait alors notre pot-au-feu, mon mari ?» Ses airs de petite matrone le remirent en belle humeur. Voyant que plusieurs lattes de la barrière menaçaient ses ruines, il courut chercher son marteau et des clous pour les raccommoder. Tout le reste du jour, il facta, suivant son expression. Facter signifie aller et venir en vacant à de menus ouvrages, puiser de l'eau, balayer une remise, examiner une gouttière percée, redresser les gonds d'un volet qui penche, faire des copeaux pour le feu de la cuisine, mettre sur le foyer les marmites trop lourdes pour les bras des femmes. Mais les heures paraissent plus longues quand on facte que lorsqu'on reste assis à un travail régulier, fût-il ennuyeux. Le soir venu, Manuel monta chez Pierre avec sa femme. Sa belle-mère aimait à se coucher de bonne heure quand elle le pouvait. « Franchement, dit Manuel sans embâge, je me suis ennuyé aujourd'hui. Le temps m'a duré comme 48 heures. Pourtant, j'ai planté au moins 3 douzaines de clous. Il n'y a plus rien à raccommoder dans la maison. » « Que ferai-je demain, Jonquille ?»« Je casserai quelque chose pour te donner de la besogne, » répondit-elle en riant. « Mais tu fais l'enfant, mon grand mari. C'est à toi à te trouver des occupations, il me semble. » »« Comment les autres gars de la bande passent-ils leur journée ? Je voudrais bien le savoir, » reprit-il. « Comme les marmottes, ils dorment. Il y en a qui font des manches de lime. Ça me rappellerait la fabrique. » Arsène aide sa mère dans leur grand ménage. On prétend qu'il sait repasser le linge. Veux-tu apprendre ? Le sais-tu toi-même ? Demanda-t-il brusquement, car il n'aimait pas qu'on se moquât de lui. Manuel a raison, dit Pierre, qui comprenait mieux que Jonquille qu'on pût souffrir de l'inaction. Il faut qu'il ait sa besogne à lui. Si tu commençais par avoir des lapins, Manuel ? « Fameuse idée !» s'écria celui-ci. « Il y a beaucoup de places perdues sous la remise. Pas plus tard que demain, j'arrangerai leur logement. D'ici à Noël, nous aurons encore le temps de les élever. Je connais un homme, aux recrètes, qui m'en cédera bien une paire ou deux. » Dans sa reconnaissance envers Pierre, il lui offrit de lui faire un bout de lecture. Le jeune garçon rougit de plaisir. Il était ordinairement si fatigué le soir que son livre lui tombait des mains, Et comme la conversation n'avait rien de très animé, les heures lui semblaient longues parfois. De plus, il sentait bien qu'une occupation commune serait un lien entre eux trois. Manuel n'était qu'un lecteur fort médiocre. À l'école, il avait pris l'habitude de débiter ses phrases sans aucune expression quelconque, avec une intonation monotone qui tombait à la fin de chaque période. En fait de ponctuation, il enjambait toutes les virgules, mais reprenait longuement haleine à chaque alinéa avec un air de dire « Si vous avez compris quelque chose à ce que je viens de lire, tant mieux pour vous, je n'en saurais dire autant. » Cependant, au bout de quelques pages, sa voix changea tout à coup. Elle hasardait quelques inflexions intelligentes, comme si Manuel venait de découvrir que les phrases qu'il enfilait comme à la tâche avaient un sens après tout. Puis son ton se modifia à mesure qu'un nouvel interlocuteur entrait dans le dialogue. Bientôt, Manuel chercha le titre du livre, dont il n'avait pas même songé à s'enquérir. C'était la merveilleuse histoire des enfants du capitaine Grant, un beau volume richement illustré que Pierre avait relu 20 fois. Quand le lecteur butait un terme difficile, il levait les yeux et regardait Pierre d'un air interrogateur. Puis, la difficulté à planer, il reprenait sa course. Jonquille écoutait distraitement. La voix de son mari et le bruit de la rivière se confondaient dans ses oreilles. Elle laissait flotter ses pensées. À 10 heures, quand elle plia son ouvrage, Manuel ferma le livre à regret. « Ce n'est pas mal, cette petite histoire-là, » dit-il. « Est-ce que ça finit bien, Pierre ? J'aurais pu lire encore une ou deux pages, puisque ça t'amuse. » « Pierre est fatigué et moi j'ai grand sommeil, » dit Jonquille en appuyant sa tête appesantie contre le bras de son mari. « Les histoires d'aventure ne m'intéressent pas beaucoup. Si j'étais un homme, je voudrais avoir des aventures pour de vrai. » Le lendemain et les jours suivants, Manuel s'occupa à construire l'habitation de ses lapins. D'ailleurs, plusieurs expéditions nocturnes, en l'obligeant à dormir ensuite la moitié du jour, diminuèrent d'autant les heures oisives. Mais quand la famille de lapins fut installée et que la provision de bois amenée par les bûcherons fut entassée dans la remise, Manuel se trouva de nouveau en face du même problème. À quoi s'occuper ? Les après-midi étaient interminables. Il pouvait errer dans les bois aussi longtemps qu'il voulait, mais, chose étrange, il n'y trouvait plus le même plaisir passionné. Quand, parvenu à l'un de ses sommets, d'où la vue s'étend sur les méandres du Doubs et ses rives escarpées, Manuel s'étendait sur le gazon, il ne sentait plus l'ivresse de la liberté lui monter à la tête comme autrefois. L'homme est ainsi fait, il s'entend à souffrir mieux qu'à jouir. Manuel était trop peu cultivé pour trouver en lui-même de grandes ressources. Lire, c'était fort bien pour le soir. Mais durant le jour, il lui fallait de l'activité corporelle. Une fois par semaine, il se rendait en ville pour des achats. Cette journée-là s'écoulait d'elle-même, sans qu'il fallût pousser les heures par les épaules pour les obliger à avancer. Mais les 6 autres jours... Comme Firmin Mitou l'avait prédit, les gars étaient revenus l'un après l'autre, et sauf Constant Loison qui envoyait régulièrement des pacotilles sans jamais se montrer lui-même, tous avaient repris leurs habitudes d'autrefois. Avec eux, Manuel jouait aux boules. C'était une manière de tuer le temps qui en valait une autre. Il y mettait une ardeur qui étonnait ses compagnons, tous gens plus flegmatiques ou moins concentrés que lui. Il ne défendait plus à Jonquille de chanter, au contraire, il buvait sa voix comme un filtre puissant à réveiller quelque chose qu'il sentait s'engourdir en lui. Cette excitation lui devenait nécessaire. Les nuits de passe, il se livrait à des témérités étranges que ses associés blâmaient fort. C'était le péril qu'il aimait. Quand il sentait toutes les forces de son être tendues et vibrantes au milieu du danger, il aurait voulu pousser des cris de joie. À chaque obstacle vaincu, il s'attachait davantage à son métier de contrebandier. Le malheur était que ce métier ne put remplir qu'une moitié de sa vie et laissa l'autre oisive et vide. Ce qu'il eût fallu à Manuel, c'était l'effort constant de la vie du colon, cette existence sans cesse menacée par 1000 périls, cette lutte journalière contre la mort sous toutes ses formes. En Afrique, dans ces grands pays neufs où l'individu a libre carrière, Manuel Vincent aurait pu déployer toutes ses facultés. Rien alors n'eût dormi en lui, son énergie aurait eu les coups des franches, il aurait pu concevoir et créer dans une contrée où tout est à faire. Avec la hache du pionnier en main et l'espace illimité devant lui, il aurait grandi en persévérance, en stoïcisme. Il aurait été un de ces héros obscurs qui ouvrent à leurs frères les portes d'un monde fermé. Il aurait rempli sa vie. Contrebandier, il l'a laissé vide, il a traîné après lui, et dans ses heures d'ennui profond, il en venait à la maudire. Manuel Vincent était entré de plein gré dans une carrière illégale dont les habitudes irrégulières ne pouvaient que faire perdre à sa vie le peu de cohésion et de sens qu'elle avait eu jusqu'alors. Il savait fort bien que pour gagner son pain et celui de Jonquille, il bravait les lois de deux pays. Par une suite de raisonnements spécieux, il s'était donné le change à lui-même. Il était ignorant, sans conseiller, sans devoir précis qui le retinsse. Il avait le cœur généreux, de nobles élans, mais il n'avait jamais appris cette discipline de soi-même, sans laquelle notre vie se précipite, tantôt à droite, tantôt à gauche, et ne fertilise rien. Qui le jugera ? Non pas nous, car nous ne saurions démêler l'entrelacement subtil d'influence et de résistance qui forme le tissu de la vie. Bien que personne, assurément, ne lui eût jamais parlé du Natal ni du Congo, les idées d'émigration qui avaient autrefois hanté Manuel revinrent cet automne-là comme le cercle de ses occupations se rétrécissait chaque jour. Peut-être les histoires merveilleuses de Jules Verne, qu'il lisait à Pierre tous les soirs, réveillèrent-elles des souvenirs endormis? Bientôt, ses pensées prirent cette direction. Dans ses heures d'oisiveté, il allait s'asseoir au-dessus de la rivière, sur une des marches taillées dans le roc qui surplombait le courant. Là, s'amusant à sculpter quelques branches noueuses en tête d'oiseau ou de renard, il voyageait au loin, dans ces pays étonnants, où son imagination entassait un bizarre mélange de volcans, de chevaux sauvages, de phoques et de mines d'or. « Il se peut que les livres exagèrent, se disait-il, ou que je fasse un méli-mélo de tout ça. Mais n'y eût-il encore que la moitié de ces belles choses, ça vaudrait la peine d'en essayer. Je sais qu'il existe des compagnies d'émigration. Pour un certain prix, elles vous débarquent où vous voulez. Après ça, avec des bras et un peu de tête, on fait son chemin. » Un soir, il ne put s'empêcher d'en parler à Jonquille. Ils étaient seuls tous deux dans leur chambre, ayant quitté Pierre de bonne heure. Manuel s'assit près de la fenêtre, d'où l'on ne voyait rien, car la nuit était noire et le ciel couvert. Il prit Jonquille sur ses genoux, comme il aimait à le faire, pour un petit bout de causerie intime. Elle était en veine de câlinerie, il lui plaisait de sentir la main de son mari effleurer doucement ses cheveux. Avec des façons de petite chatte, elle se blottissait contre lui. « Jonquille, dit-il tout à coup, tiens-tu beaucoup à ce pays-ci ? » « Je ne sais pas, je n'en connais pas d'autre. » « C'est qu'il y en a, mamie, où nous serions plus heureux. »« Plus heureux ? » répéta-t-elle, « rien ne nous manque ici. »« Tu trouves ? Quelque chose me manque à moi, c'est de la besogne. » Elle haussa les épaules. « Occupe-toi donc, je t'ai proposé 36 choses. » Des ouvrages de femmes, les petits outils se cassent dans mes mains. J'aime la pioche, la hache et tout ça. Au printemps, tu feras notre jardin. Au printemps, dit-il d'un air songeur. Avant le printemps, il y a l'hiver. Sais-tu que je n'y avais pas encore pensé? C'est bête tout de même. Qu'est-ce qu'on fait ici en hiver? Les hommes, j'entends. Ils tournent leurs pouces, répliqua-t-elle avec un peu d'impatience. Ils ne sont bons qu'à ça et à fumer leurs pipes. Est-ce qu'on peut faire la passe en hiver ? Moins facilement qu'en été, mais il y a des semaines où le temps le permet. Seulement, je te garderai à la maison le plus que je pourrai, poursuivit-elle en lui entourant le cou de son bras. Nous avons fait, comme la fourmi, de bonnes provisions pour l'hiver, tu te reposeras. Il sourit avec un peu d'amertume. C'était bien de repos qu'il avait besoin, en vérité. « J'ai autre chose en tête, » reprit-il avec un peu d'hésitation. « Que dirais-tu d'émigrer, Jonquille ?»« Pourquoi faire, au nom de tous les saints » s'écria-t-elle. « Est-ce que t'as raison d'éloge, Manuel ?» « Peut-être, il y a de quoi, » fit-il rudement. « Je me ronge l'esprit depuis tantôt 2 mois. La vie de contrebandier a du bon, mais elle ne saurait me suffire. Elle me laisse trop de temps sur les bras. J'aime bien mon pays, mais il ne m'aime pas, lui, apparemment, puisqu'il ne veut rien me donner. » « J'aurais cru, » dit Jonquille avec un accent de reproche, « que tu avais, au contraire, reçu bien des choses ces derniers temps. » « C'est vrai, ma mignonne, je suis ingrat, » s'écria-t-il en la serrant plus étroitement. « Toi, tu es mon trésor. »« Mais, vois-tu, je ne sais comment te dire ça. La maison, une petite femme bien gentille, ça ne remplit pas la vie d'un homme. Il lui faut quelque chose dehors pour qu'il soit content de rentrer chez lui, la journée finie. Veux-tu que nous partions ? Je te garderai si bien que tu ne sentiras pas les chaos du voyage. » « Et Pierre ? » dit-elle. Il y eut un long silence. Enfin, Jonquille se leva. Manuel fit comme elle et sortit. Tout était noir au dehors. La cour déserte, pleine d'ombre, semblait immense. Le toit de la vieille maison confondait ses lignes avec celles des rochers qui se détachaient vaguement sur le ciel sombre. On entendait la rivière, mais on ne la voyait pas. Manuel alla s'asseoir sur une pierre au bord du courant, la tête dans les mains. Les contours confus de tout ce qui l'entourait ressemblaient aux lignes de sa propre vie. Il s'efforçait en vain de les démêler, il cherchait à tâtons un fil conducteur qui lui échappait sans cesse. Libre, il ne l'était plus. Il avait lié sa vie irrévocablement. À cette pensée, il eut un accès de sauvage désespoir, comme un animal qui cherche des issues et les trouve toutes bloquées. Pourquoi, après avoir brisé sa première chaîne, s'en était-il forgé une autre? Pourquoi s'était-il attaché un boulet au pied? Jonquille, Pierre. Pendant une seconde, il crut qu'il les haïssait. Il se serra les tempes à 2 mains. « Je deviens fou, » murmura-t-il. « Tout est fermé, tout est noir. Il faut briser ce cercle, il faut faire quelque chose. » Il se leva brusquement, marcha de long en large dans la cour. Sa violente passion s'apaisa, il se mit à rire avec amertume. « Fou que je suis, » pensa-t-il, « de croire que la terre doit cesser de tourner parce que je suis malheureux. Elle en a vu bien d'autres. Je suis mal équilibré, voilà tout. » Il se promena longtemps encore pour se calmer et finit par remonter chez lui où Jonquille l'attendait très anxieuse. Cette nuit de sombre mémoire marqua la première phase de leur vie mariée.